Je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement écouter la parole, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que Dieu est sur mon chemin. Je crois qu'il me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas. Je lui ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue. Il est toujours avec moi, je ne suis pas seule, jour après jour. Et ce matin, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte. À vous qui êtes présents dans ce temple, soit fidèles parmi les fidèles, soit pour une présence occasionnelle. Avec Francine, nous animerons le culte ensemble. Sentez-vous accueillis. Et pour nous accompagner, merci à Mathieu à l'orgue et à Dominique et Christophe à l'accueil. Nous chanterons les spontanés qui figurent dans la petite feuille à l'entrée des recueils, ainsi que les cantiques qui sont affichés au tableau. Dieu nous ouvre le chemin et conduit nos pas dans la lumière. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison ».
La beauté de ta création dans tout l'univers et dans le cœur des hommes et des femmes. Merci pour l'habileté des mains, la pensée féconde, la parole qui libère et l'ouvrage que tu confies. Merci pour la solidarité des hommes et des femmes, pour la multitude des labeurs en tant de lieux du monde dont ma vie dépend. Je vous invite à chanter le cantique 41-20, page 588. Jésus, tout l'univers entonne.
Thank you.
La grâce de Dieu nous conduit à la repentance. Nous prions avec les mots du pasteur André Dumas. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin de cesser les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis du dehors qui m'assaillent et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité, de ta tranquillité, de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Nous restons assis pour chanter le spontané de la repentance. La grâce de Dieu. De accueillir cette parole qui nous pardonne tel que nous sommes, je vous invite à vous lever. Seigneur, garde-moi simple et accueillante. Anime mes gestes et mes paroles dans les événements des jours. Fais-moi chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent. Fais-moi crier avec ceux qui protestent. Dire oui avec ceux qui construisent, dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. Seigneur, élargis l'espace de ma vie pour cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent. Donne-moi d'écouter celui que je rencontre, de redonner courage à celui qui a peur, une parole à celui qui cherche, un morceau de pain à celui qui a faim. Donne-moi de la joie dans le service. Chantons notre reconnaissance en restant debout pour chanter le spontané du pardon.
Avant de lire les Écritures, nous prions. Je t'écoute, Dieu. Apprends-nous les tant pis qui sont tant mieux, les doutes qui sont routes, les pertes qui sont portes, les vides qui sont vitres, sur l'au-delà des yeux, sur l'en-dedans de toi. Recrée-nous à ton image. Recrée-nous de ta parole. Parle, mon Dieu, je t'écoute. Et nous chantons le spontané de la volonté de Dieu. Dieu nous montre le chemin.
Don't
et c'est Dominique qui va partager les quatre textes proposés pour aujourd'hui.
La première lecture est dans le livre d'Ézéchiel 2, versets 2 à 5. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. La deuxième lecture est le psaume 123, versets 1 à 3. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Deuxième épître aux Corinthiens 12, versets 2 à 10. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la quatrième lecture, Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, et si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et nous chantons le...
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Jésus circule depuis un certain temps de village en village, tantôt au bord de la mer de Tibériade, tantôt plus loin. Dans cet extrait de Marc, il est question que Jésus revient dans sa patrie, dans son pays. Directement, nous avons compris que Jésus et ses disciples arrivent à Nazareth. Or, si vous avez bien écouté, le mot de Nazareth n'est jamais nommé dans cet extrait. Ce n'est que bien plus tard dans Marc qu'il sera expressément question de Nazareth. C'est dire que Nazareth n'était à l'époque ni une agglomération importante, ni ancienne, ni remarquable. Nazareth était une simple bourgade insignifiante, sans signe distinctif. Jésus prêche dans la synagogue, chez lui. On aurait pu penser que l'accueil serait triomphal et les habitants seraient fiers de voir sortir de leur rang le Messie tant attendu. Mais c'est bien l'inverse qui se produit. Non pas que les Galiléens soient envieux ou jaloux de la réussite de l'un des leurs. Pourquoi lui et pourquoi pas mon fils, mon frère ou moi? Non. Les Galiléens attendaient la venue du Messie. Et c'est l'un des leurs qui vient. L'annonce répétée d'un sauveur laissait présumer la venue d'un roi tout-puissant, vainqueur omnipotent, justicier, voire vengeur. Pour les habitants de Nazareth, il est complètement impensable que Jésus, qui leur est si proche, Jésus, fils du charpentier, Jésus, fils de Marie, puisse être le Messie, qu'il puisse venir de chez eux, qu'il puisse être incarné par quelqu'un aux origines aussi banales. Impossible. Impossible aussi de voir quelqu'un d'autre derrière le charpentier, derrière le fils de Marie. Jésus reste enfermé dans ce carcan social, dans ce mode de pensée où l'individu n'est qualifié que par sa famille ou par son métier. À la lecture de ce passage de l'évangile de Marc et du télescopage entre identité sociale de Jésus et sa dimension divine, j'ai pensé à une séance de caté proposée à chaque groupe chaque année. Cette séance est consacrée à répondre à la question « Qui es-tu, toi ?» Il est toujours très intéressant et instructif de voir comment chaque jeune se présente. Systématiquement, chacun se situe par rapport à ses parents, à son collège, à son équipe de sport ou à son orchestre. Et ce n'est qu'ensuite qu'arrive une description plus personnelle ou introspective. Je parle des séances de caté, mais qu'en est-il de nous? Ne fait-on pas de même? N'est-il pas plus simple de se définir en fonction de son origine géographique, de son origine sociale ou en fonction de son métier? En effet, difficile d'aller au-delà des stéréotypes qu'il y a derrière une profession ou une origine sociale. Cette semaine, j'ai discuté avec une de mes connaissances d'origine rwandaise en France depuis une quinzaine d'années. Nous avons échangé sur différents sujets. Le génocide rwandais, son arrivée en France. Il m'a alors dit que pour lui, toute sa vie a toujours été une question de minorité. Minorité Tutsi, majorité Hutu, l'inverse, et que lui avait toujours fait partie d'une minorité. Et il m'a dit aussi quelque chose de très frappant. Il m'a dit qu'ici, en France, il n'a plus l'impression de faire partie d'une minorité parce que, en fait, il a une situation professionnelle stable et qu'il a une famille. Et donc, qu'au regard des autres, il est quelqu'un de normal qui ne fait plus partie d'une minorité. Donc finalement, rien de neuf. Au temps de Jésus comme aujourd'hui, c'est la même règle qui est utilisée pour catégoriser les gens. Il n'est donc pas question ici de blâmer l'attitude des Galiléens qui ne parviennent pas à voir Jésus autrement que celui qu'ils connaissent depuis plus de 30 ans. À minima, ils reconnaissent la sagesse des enseignements de Jésus et les miracles. Et encore, Par contre, il leur est impossible de reconnaître la dimension prophétique et encore moins la dimension divine de Jésus. Pour eux, qui l'ont connu sur les bancs de l'école, il ne peut être que Jésus, le fils de Marie, Jésus, le charpentier. Petite remarque en passant, il est d'ailleurs souligné qu'on décrit Jésus comme le fils de Marie. Il n'est fait mention de Joseph que dans l'évangile de Luc. C'est que chez Luc où Jésus, c'est le fils de Joseph. On ferme la parenthèse. En fait, c'est toujours la même incompréhension qui surgit. Comme chez Élie, qui recherchait la présence de Dieu dans le vent, dans le feu, dans la force, les Galiléens s'attendaient à un autre Messie. Le contraste est trop important entre ce que Jésus dit et fait et ce que les gens connaissent de lui. Mais contrairement à Élie, qui reconnaît la présence de Dieu dans le bruit d'un souffle léger, les Galiléens, face à l'énigme Jésus, font le choix de l'incrédulité. Ce texte nous montre que l'incrédulité, c'est le contraire du doute. Ces gens ne doutent pas, ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs de tout savoir de Jésus, sûrs de ne pas se laisser berner par ses bonnes paroles. Ne pas être dans l'incrédulité, ce serait être capable de mettre en doute les choses telles qu'elles leur apparaissent. Les Galiléens ont loupé le coche en ne doutant pas de leur incrédulité. La rencontre avec Jésus n'a pas eu lieu, c'est un échec. Mais au-delà du fait que Jésus ne corresponde pas au casting initial, il y a également la difficulté de comprendre le message délivré par Jésus. Les Galiléens reconnaissent la sagesse de Jésus. Peut-être que si le message délivré par Jésus avait été plus simple ou plus simpliste, le gouffre entre le message et celui qui le porte aurait été beaucoup moins important à combler. Mais en fait, porter la bonne nouvelle n'est pas facile. En effet, ni l'existence de Dieu, ni sa présence spéciale en Jésus de Nazareth, ni la pertinence de l'Évangile ne sont évidentes. Autant d'Ézéchiel, comme au temps de Jésus, de Paul, et comme aujourd'hui pour nous. D'ailleurs, tous les textes lus ce matin soulignent cette difficulté. Le message reste difficile à entendre et à transmettre. Le message est si difficile à transmettre qu'il peut même générer mépris et moquerie. Le psaume 123 est un psaume de consolation qui répond bien à un besoin de réconfort pour des croyants qui peuvent être moqués, méprisés, incompris, enfermés dans la case dans laquelle d'autres peuvent les enfermer. Ce psaume relève les croyants qui sont abaissés. Quant à Ézéchiel, Dieu l'envoie en mission, tout en sachant que certains ne l'écouteront pas. Malgré tout, ils le reconnaîtront comme prophète, ce qui nous montre que la personne qui délivre le message peut être reconnue, même si le message n'est pas audible. Dans l'extrait de Marc, ce n'est pas complètement le cas pour Jésus à Nazareth, ou à l'inverse, les Galiléens l'écouteront, peut-être le comprendront pas toujours, mais ne le reconnaîtront pas comme prophète et encore moins comme Dieu Fils. L'Évangile, la bonne nouvelle, a des aspects réconfortants, mais il est aussi exigeant, dérangeant. Il remet en cause les idées toutes faites, les pouvoirs de toutes sortes. Le message n'est pas toujours facile à accepter, à comprendre. Il nous bouscule dans nos idées reçues et il faut parfois prendre le temps, laisser infuser, prendre du recul pour le digérer et lui permettre de diriger nos vies. L'Évangile regorge d'inversions de grilles de lecture, de changements de cadre. Ainsi, quand Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens « Car lorsque je suis faible, C'est alors que je suis fort. Il est encore dans ce changement de valeur. C'est dans notre faiblesse que l'on puise la force donnée par Dieu. Après ce texte de la prédication de Jésus auprès des siens qui se solde par un échec, doit-on sombrer dans le pessimisme ? Et sur cette difficulté de transmettre la bonne nouvelle, d'écouter, de comprendre la bonne nouvelle ? La réponse est bien sûr non. Jésus rebondira et changera sa politique de com, si on peut dire. Il va envoyer ses disciples porter la bonne nouvelle. Il va déléguer pour semer encore plus loin, encore plus loin, et semer encore. D'ailleurs, un certain nombre de sceptiques de l'extrait de Marc seront présents dès Pentecôte dans l'embryon d'Église de Jérusalem. Et nous ? Nous ne sommes pas sûrs de notre foi. Nous prenons le doute, la recherche de réponses à nos questions, l'acceptation de ne pas avoir de réponse toute faite, simpliste ou conforme à ce que nous souhaitons. C'est par l'exemplarité de nos actes, la lumière de nos regards, que nous serons des messagers de la bonne nouvelle. Nous avons les mains jointes dans la prière, mais nous n'avons pas les bras croisés, nous répétait notre pasteur Charlotte. C'est aussi ce que nous faisons chaque dimanche et tout au long de notre vie, nous semons. Ayons donc pleine confiance dans la pertinence de l'Évangile et dans l'action de l'Esprit. Semons et Dieu fera fructifier ce que nous aurons dit et fait dans l'espérance. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique 31-29, page 340. Peuple qui marchait dans la longue nuit.
De laisser l'amour.
éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi en chantant le spontané. Confession de foi numéro 5 que vous trouvez à la fin du recueil.
Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint, malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Amen. Seigneur Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Que notre offrande soit l'expression enthousiaste de notre reconnaissance. Thank you.
Merci Éternel pour ces gestes que tu suscites en chacun de nous, chaque jour et à ton service. Amen. Voici le temps des annonces. J'invite Christophe.
Bonjour, écoutez, ça va être très rapide. Il y a le groupe de prière mercredi à 18h au temple. Et puis, je crois que c'est tout pour cette semaine, puisque la chorale ne reprend qu'en septembre, et culte dimanche prochain à 10h, ici même. Voilà.
Nous remercions Daniel pour les fleurs. Chaque année, chaque semaine, chaque mois plutôt, toutes les fois où tu apportes des fleurs, merci. Nous remercions Mathieu qui nous accompagne, Dominique et Christophe à l'accueil et Dominique pour les lectures. Et merci à vous d'être présents pour ce premier culte de cette année sans pasteur. Votre soutien nous est précieux. Nous allons prier les uns pour les autres et c'est Marie-Vonne qui nous guide.
Prions les uns pour les autres, que je sois, que tu sois, que nous soyons des instruments de paix. Seigneur, que par ta grâce, nous soyons bien à notre place, au moment prévu, auprès des hommes et des femmes que nous pouvons aimer et servir de ta part. Apprends-nous à être simplement et sans détour ce que nous sommes. Être avec toi, être pleinement présent aux autres, être et ne pas toujours faire, être et nous recentrer toujours autant que possible sur l'essentiel de la vie, être et donner toute sa place à l'amour. Aide-nous aussi à être auprès de nos plus proches prochains, nos enfants, nos conjoints, nos familles et nos amis, que nous puissions être ce repère modeste et fiable. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous te prions comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous allons recevoir la bénédiction de la part du Seigneur avec un texte du pasteur Gérard Deltheil. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure. Mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, mais qu'elles soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutiennent en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous, comme un défi, l'amour de la vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu manifeste en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller en toi la lumière, ta lumière dès sa rencontre. Que le Seigneur te donne la paix. Amen. Nous allons chanter le cantique indiqué et Mathieu va nous le jouer en entier parce qu'il est peu connu. C'est le 4607 que notre amour se montre, page 720.
À tous.